Radio Kapi.
Des combats continuent sur la ligne de front entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le groupement Jomba, en territoire de Rutshuru. Pour se mettre à l'abri, les habitants de plusieurs villages quittent la zone depuis vendredi. Certains vont jusqu'en Ouganda voisin. 10 personnes auteurs de vol à main armée dans la ville de Kindu ont été condamnées à perpétuité ce samedi 22 octobre par le tribunal militaire garnison de Kindu. Ces personnes étaient poursuivies pour meurtre, tentative de meurtre et association de malfaiteurs, des faits survenus au mois de juin et juillet dernier. Enfin, la RDC est passée de plus de 8000 unités de production dans les années 1960 à moins de 1000 unités actuellement. Voilà pourquoi il est plus que temps de reconstruire les tissus industriels congolais. Le ministre Julien Paluku s'est ainsi exprimé en marge du Rebranding Africa Forum organisé à Bruxelles. Il est notre invité dans ce journal. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Au Nord Kivu, les combats continuent sur la ligne de front entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le groupement Jomba, en territoire de Rutshuru. Plusieurs sources sur terrain signalent d'intenses échanges de tirs ce dimanche matin dans la région de Kabindi. Pour l'instant, difficile d'établir un bilan clair de ces affrontements. Alors, pour se mettre à l'abri, les habitants de ce plusieurs villages quittent la zone depuis vendredi. Certains vont jusqu'en Ouganda voisin. Les précisions avec Pierrot et la Mégie.
Selon les sources administratives sur place, les mouvements des populations continuent ce dimanche matin dans les territoires de Rutshuru. C'est à la suite des violents combats qui sont à leur quatrième jour ce dimanche. Plusieurs familles des Tamugenga et Tarika continuent d'arriver à Rubare, une grande agglomération proche de Rutshuru Centre. Pendant ce temps, les habitants des localités de Kibanda et Rangira se sont dirigés à Rutshuru Centre. Pour leur part, ceux de Tchengerero et Kabindi qui ont commencé à quitter leur village depuis vendredi pour se réfugier à Bunagana ont traversé hier la frontière vers l'Ouganda. Il en est de même des habitants de Bunagana qui vivent également la cité et qui trouvent aussi refuge en Ouganda. Toujours selon des sources administratives, les populations qui traversent la frontière ougandaise sont acheminées par les autorités ougandaises vers le camp des Nakivale, loin de la frontière. Des notables dans la zone demandent au gouvernement de régler durablement cette question du M23 dans le Rutshuru pour éviter à la population de toute cette zone de vivre un perpétuel déplacement.
En Ituri, pendant ces temps, plus de 15 000 personnes déplacées vivent sans assistance depuis 4 mois maintenant dans les territoires de Mambasa, à environ 165 km de Bunia. Il s'agit des personnes qui avaient fui les exactions des rebelles des ADF et leurs alliés Mai Mai sur l'axe Loloa-Mambasa-Biakato. Ces cris d'alarme a été lancé hier samedi par le bureau de coordination de la société civile de ce territoire au terme de l'opération de recensement des déplacés qu'elle a menée pendant 2 semaines. Cette structure citoyenne invite le gouvernement ainsi que les organisations humanitaires à venir en aide à ces personnes dépourvues de tout. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Il s'agit par exemple des villages de Mabandiko, Bahaha, Tolitoli, Bandibwale et d'autres situés sur le long du tronçon Loloa-Mambasa, mais aussi ceux de Mayuwano, Bangoussi, sur l'axe Biakato qui se sont presque vidés de leurs habitants. Ces derniers ont fui des exactions des rebelles des ADF et leurs supplétifs Mai Mai qui sèment terreur et désolation dans la zone. Certains déplacés vivent dans des hangars des églises où ils ont érigé des tentes de fortune. D'autres encore sont cantonnés dans des familles d'accueil qui, elles aussi, avec des conditions hygiéniques déplorables, explique la société civile locale. Sa coordonnatrice Marie-Noël Anotane.
C'est depuis le mois de juin que nous avons maintenant un afflux considérable de déplacés chez nous. Il y a ceux-là qui passent nuit à l'école, les matins comme ça, ils étalent leurs objets dehors. Donc, nous appelons tout le monde à nous venir en aide, à avoir des abris pour ces gens-là.
Contactez l'administrateur du territoire de Mambasa, dit avoir saisi certaines organisations humanitaires pour venir en aide à ces personnes en détresse. Toutefois, le colonel Jean-Baptiste Mounyampandi indique que l'armée poursuit toujours des opérations pour traquer ses ADF dans cette zone et permettre le retour des populations dans leur milieu d'origine. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
On reste en Ituri. Il est important d'agir d'abord sur le mental du peuple iturien et le faire sortir de l'ignorance pour espérer au retour d'une paix durable dans cette province fatiguée par les conflits armés. Telle est la proposition du professeur Patrick Tchombé, responsable du laboratoire scientifique des paix, justice, démocratie et développement pour la pacification de cette province. Au cours d'un symposium scientifique pour la paix organisé samedi à Bunia, il indique que toutes les démarches pour la restauration de la paix dans cette province n'ont pas abouti pour taire la violence causée par les groupes armés. Il estime qu'il est dès lors important d'inculquer aux enfants dès le bas âge la notion de la culture du pardon et du vivre ensemble. C'est là en vue de pérenniser les acquis de la paix. On l'écoute au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Vous savez, aujourd'hui, l'Ituri a connu tous les mécanismes pour mettre la paix. Il y a l'opération militaire, il y a l'état de siège aujourd'hui. Tous ces mécanismes ont des fruits, encore mitigés. Et nous, nous disons pourquoi il y a persistance et il y a récurrence d'insécurité. Et on voulait tout justement proposer d'agir sur le mental, capable de pouvoir, si pas définitivement, mais donner des moyens plus durables pour une paix en Ituri de demain, pour préserver nos petits-fils qui naîtront, nos fils qui sont nés aujourd'hui. En fait, il est question seulement d'introduire la notion de la paix. Il faut combattre l'ignorance des droits notamment. Nous avons produit un petit brochure sur qui contient 15 de ces questions des droits des sociétés ici. Nous proposons que nous puissions créer ici en Ituri un fonds provincial d'appui à la scolarité pour les Ituriens, pour former des élites ituriennes.
Autre nouvelle, tout individu a quelque chose à apporter pour édifier la paix sans faire recours à la violence. Cet appel vient de l'évêque catholique du diocèse de Butembo-Béni, lancé au sortir de la messe de Requiem dite à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo pour le repos de l'âme de la sœur religieuse Dr Sylvie Kavouke, l'une des 7 victimes de l'incursion des présumés rebelles de l'ADF, jeudi dernier dans le village de Maboyatingé sur l'axe Béni-Butembo dans le groupement Malio-Chefferie de Bachou. Tout en déplorant la persistance de l'insécurité dans la région, Mgr Sikouli Paluku Melchisedek exhorte ainsi la population à la solidarité afin de faire face à l'ennemi de la paix. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous au cours d'un entretien accordé à nos confrères de la radio, télé et Limo.
Il ne faut pas voir ce qui se passe comme si c'était isolé, comme si ça concernait quelques catégories de personnes. Cela appelle à une plus grande solidarité qui doit amener les gens à réfléchir, à se demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour veiller, non pas sur moi-même d'abord, mais pour veiller aussi sur tous ceux qui sont autour de moi, ceux qui vivent dans mon village, ceux qui vivent dans ma ville, que tous puissent s'élever comme un seul homme pour dire non à ces situations. S'il y a des actions bien ciblées, qui ne sont pas des actions de violence, pas de violence. Pourquoi vous devez penser que pour réaliser la paix, il faut prendre une machette ou un fusil? Non, c'est pas ça. Si vous vous désarmez vous-même de vos sentiments, si vous cessez de vous asseoir avec ceux qui méditent le mal, si on sait que je suis avec tel, mais il me semble quand même un peu suspect, il faut l'aider à ceux qui le renoncent à ces mauvais sentiments. C'est la solidarité. Cela veut dire que tout le monde a quelque chose à apporter, au moins pour édifier la paix.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, dans la province du Maniema, 10 personnes auteurs de viols à mains armées dans la ville de Kindu ont été condamnées à perpétuité hier samedi par le tribunal militaire garnison de Kindu. Ces personnes étaient poursuivies pour meurtre, tentative de meurtre et association de malfaiteurs et d'autres faits survenus au mois de juin et juillet dans la ville de Kindu. Parmi eux figurent l'administrateur assistant du territoire de Kasongo et le bourgmestre de la commune rurale de Kasongo qui écope de 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes et association de malfaiteurs. Florence Kizalunga pour les détails.
C'était à la tribune centrale de Kindu que s'est tenue cette audience publique présidée par le capitaine Biamungu Munyagira. Sur les 15 prévenus dont un en fuite, le tribunal a acquitté 2 et s'est déclaré incompétent pour les dossiers des 3 autres car le fait leur reproché sont purement civils et les a remis ainsi à leur juge naturel. 10 prévenus ont été condamnés à perpétuité pour vol à main armée, meurtre, tentative de meurtre et association de malfaiteurs. Parmi eux, une femme qui hébergeait ses malfaiteurs et qui recevait les butins de vol et assurerait la vente. Le tribunal militaire garnison de Kindu a aussi condamné la République au paiement de $50,000 américains à la famille du pasteur Hussein Abeli, tué le 29 juin dernier à son domicile. L'État congolais devra également payer $25,000 américains à Madame Lusane Boué Miki Geneviève, qui avait reçu des coups de balle à son épaule gauche, et $10,000 à Gabriel Kansilembo, qui avait aussi reçu un coup de marteau à la poitrine. Le tribunal a autorisé aux prévenus lésés d'interjeter appel. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Encore un autre cas de verdict populaire signalé au territoire d'Idiofa. Nous sommes dans la province du Kwilu. Cette fois-ci, c'est un jeune conducteur de taxi-moto qui a été brûlé vif vendredi 21 octobre par la population du village de la Boma. Selon la société civile de ce territoire qui livre l'information, la victime a été surprise en flagrant délit de vol d'une moto, ce qui l'a conduit à la mort. Maître Alain Kamanda, un acteur de cette structure, condamne ce cas de meurtre par verdict populaire qui, selon lui, n'est pas le premier dans ce coin du pays. Il demande l'intervention des autorités. Le point avec Irène Mbouma.
Selon les sources de la société civile du Jofa, c'est au niveau du village de la Boma situé dans le secteur de Kanga que les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi à ce samedi 22 octobre 2022. Maître Alain Kamanda, l'un des cadres de cette structure, indique qu'il s'agit d'un motard âgé d'une vingtaine d'années qui a été totalement calciné par les jeunes gens du village. Son péché est d'avoir volé une moto, comme l'explique ici cet activiste des droits humains qui déplore et condamne ce énième cas de verdict populaire dans les territoires de Jofa.
Un taximen moto a été brûlé vif. Il est mort sur le champ calciné alors. Il paraît qu'il est allé voler une moto quelque part. Les jeunes gens l'ont surpris. Ils l'ont tué par brûlure. Ils ont jeté de l'essence sur lui. Il est mort sur place. Nous demandons que les autorités multiplient les patrouilles, surtout par le truchement de la police. Nous déplorons cette situation. Nous interpellons les autorités. Nous sommes dans un état de droit et l'État doit faire son travail. Nous ne voulons pas qu'il y ait une justice populaire.
Joué à ce sujet, le commandant 7 de la police de Jofa, le colonel Mongila Pierre, reconnaît cette tuerie et indique que toutes les précisions seront livrées ultérieurement après les enquêtes qui se poursuivent pour élucider la situation. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, direction Kasaï Oriental. Arrivé hier samedi en Mbujimayi, de la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Angèle Dikongo Yatangana, est venue passer en revue les activités que le UNHCR réalise dans la province du Kasaï Oriental en faveur des communautés. Angèle Dikongo Yatangana, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Le but de ma visite était véritablement de présenter mes civilités à l'autorité et de passer en revue les différentes activités qui meublent notre collaboration, notamment les activités de réintégration des réfugiés qui reviennent d'Angola, d'autonomisation des personnes déplacées à l'intérieur et d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes. Je dois dire que j'ai même dû féliciter déjà le gouverneur parce que j'ai eu vent de ce qu'il était véritablement en soutien des activités que nous menons en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous avons aussi préconisé des activités de mise en place d'un cadre juridique pour la province pour des édits qui vont justement nous aider à combattre ces comportements qui avilissent la femme ou qui l'empêchent d'accéder à la terre. Et je dois dire au passage que nous avons remercié l'autorité parce qu'il a déjà mis à notre disposition 5000 hectares de terrain pour pouvoir réintégrer les Congolais qui reviennent d'Angola en les aidant avec des kits pour bâtir des maisons pour qu'ils puissent se réintégrer durablement dans le tissu social congolais.
Et puis à Matadi au Congo central, poursuite de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État lancée le 12 octobre dernier par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. À en croire certains agents, la dite opération s'est faite très lentement et avec beaucoup de désordre malgré la bonne volonté de l'équipe venue de Kinshasa de bien faire son travail. Selon les fonctionnaires, les macarons d'accès sont soit monnayés par les policiers commis à la réglementation de l'ordre dans ces sites, soit distribués par complaisance par certains chefs de division provinciale. Ces allégations sont rejetées par Godefroy Kadiadioko, chef de bureau à la division provinciale des mines. Selon lui, ce sont les agents qui sont à la base du désordre. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Depuis le 13 octobre, soit une journée après le lancement de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État, l'entrée du bâtiment du ministère de l'Agriculture et Développement Rural, situé sur l'avenue Kalankala à Matadi, est envahi chaque fois par les fonctionnaires de l'État. Ces derniers passent des journées entières debout devant les grilles de ces bâtiments. Selon eux, c'est l'acquisition du jeton d'accès au lieu où s'effectuent les contrôles physiques et l'enrôlement qui pose souvent problème. Pour y accéder, soit on a des affinités avec celui qui distribue les jetons, soit on donne l'argent aux agents de l'ordre. Témoignage de cette dame rencontrée sur le site à 16h vendredi, alors qu'elle y est depuis 5h du matin.
La police va 5000.
Les policiers nous exigent 5000 voire 2 bières avant d'accéder sur les sites. Une fois à l'intérieur, les contrôleurs eux aussi nous font sortir. Ça, c'est blaguer avec des gens. Allégation rejetée par les délégués des chefs de division qui accompagnent les agents dans cette opération. Godefroy Kadiadioko est le chef du bureau à la division des mines.
C'est des mensonges. Nous donnons des jetons à tout le monde, pas par affinité. Quand est-ce que vous allez monnayer? Au moment où on est exposé devant tout le monde.
Les superviseurs en province de cette opération d'identification a quant à lui indiqué qu'à Matadi, plusieurs personnes se sont achetées des matricules et leurs dossiers sont irréguliers, mais ils ne veulent pas entendre raison. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En international, les inondations sont fréquentes pendant la saison de pluie au Nigeria. Mais cette année, plus de 600 personnes sont mortes et près de 1,4 million de personnes ont été poussées à l'exode. Les routes sont inondées et les infrastructures qui ont cédé à la montée des eaux sont devenues impraticables. Pour quitter ces zones submergées, il faut patienter plusieurs jours. Et puis, crise en pédiatrie en France. L'exécutif annonce lancer un plan d'action immédiat avec notamment l'activation localement des plans blancs. Pour tenter d'apporter une réponse à la crise traversée par des services d'urgence pédiatriques en voie de saturation.
L'invité.
La RDC est passée de plus de 8000 unités de production dans les années 1960 à moins de 1000 unités actuellement. Voilà pourquoi il est plus que temps de reconstruire les tissus industriels congolais. Le ministre Julien Paluku s'est exprimé en marge du Rebranding Africa Forum organisé à Bruxelles. Mais pour réussir cette industrialisation, le ministre Paluku plaide pour des budgets conséquents qui accordent une place de choix aux investissements et non seulement au fonctionnement des institutions. Julien Paluku Kaungia est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana. Suivez.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes bien d'accord sur la nécessité de transformer localement nos minerais, mais avec quelles infrastructures, avec quelle énergie?
On ne peut pas développer la transformation de nos minerais, effectivement, s'il n'y a pas cette énergie, s'il n'y a pas ces infrastructures. Moi, j'ai toujours dit que les problèmes de l'Afrique ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités à saisir. Voilà pourquoi une occasion comme celle-ci où on discute des transformations dont l'Afrique a besoin, nous avons essayé un peu de mobiliser tous les partenaires techniques et financiers, des banquiers qui sont présents, qui peut-être ont des moyens mais qui ne savent pas où les canaliser. Nous les avons sensibilisés pour dire les pays comme la RDC avec ses 2 345 000 km², avec ses 26 provinces, avec ses difficultés d'interconnexion de toutes les provinces, ce sont là non des problèmes mais des opportunités à saisir.
La RDC est passée de plus de 8000 unités de production dans les années 60 à moins de 1000 aujourd'hui. Comment rattraper ce déficit?
Oui, on ne les fait pas comme par un coup de baguette magique. Il est vrai que notre plan d'industrialisation que nous avons élaboré, qui a été adopté par le Conseil des ministres, se projette sur 10 à 20 ans. C'est-à-dire, nous avons détruit notre économie par des mécanismes que j'ai cités, notamment les guerres, les rébellions, les pillages. Construire une maison et la détruire, il faut un temps différent. Pour la détruire, on peut le faire en une journée, mais pour la construire, il faudra des années et des années. Il en est de même pour refaire les tissus industriels de la RDC. Il a été détruit en un clin d'œil, mais pour revitaliser ces tissus industriels, il faut entre 10 et 20 ans. Malheureusement, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais. Lorsque vous commencez à parler en termes de 10, 20, 30 ans, vous n'avez plus d'amis. Parce que les gens sont hantés par un esprit de l'immédiateté. Ils veulent se retrouver dans le court terme. Mais quand nous voulons développer l'Afrique, nous voulons développer la RDC, nous devons mettre fin à ce que j'appelle le court-termisme qui hante les esprits des gens. La Chine, ni t'était le plan élaboré par des gens comme les Mao Tse-tung, la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les Africains et les Congolais en particulier doivent s'inscrire dans une vision prospective.
Qu'est-ce que vous pensez de l'ASLECAF aujourd'hui? Est-elle une menace pour la RDC?
Non, l'ASLECAF c'est une vraie opportunité qui doit réveiller tous les pays africains à booster leur politique industrielle. Parce que l'ouverture des frontières veut dire qu'il y aura échange. Aujourd'hui, les échanges que nous les faisons avec les États-Unis, avec l'Europe, avec la Chine. C'est près de 80-85% d'échanges que nous faisons avec l'extérieur qu'avec nous-mêmes. Et donc, l'ASLECAF offre l'opportunité aux Africains de booster, comme je l'ai dit, les politiques industrielles, de penser à la transformation locale, de choisir des filières prioritaires qui font l'objet des volumes d'importation. Je donne l'exemple. Vous avez le bois. Tout le monde importe des chaises, tout le monde importe des armoires, tout le monde importe des lits. Alors que la RDC, c'est le pays qui regorge la deuxième forêt mondiale. Alors, les cure-dents, nous les importons de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que les pays africains doivent faire? Ils identifient les filières pour lesquelles ils subissent d'énormes factures d'importation pour en faire des filières de transformation locale parce que le marché est disponible. C'est comme le secteur pharmaceutique. J'ai fait une analyse avec le ministre du Commerce extérieur de la RDC qui a démontré que nous importons pour 470 millions de dollars de produits pharmaceutiques. Si nous installons des unités pharmaceutiques dans le pays, nous avons un marché de 470 millions qui est disponible.
Vous avez plaidé tantôt pour une inversion de la tendance dans les budgets africains. Cela se traduirait par quoi? Prenons le cas de la RDC.
Oui, ce que nous avons constaté dans l'analyse des budgets des pays africains, c'est que c'est des budgets de fonctionnement, c'est des budgets de salaire, c'est des budgets qui accordent moins d'importance aux investissements. Et donc la tendance à inverser, c'est que les chefs d'État et de gouvernement prennent conscience qu'on peut relever l'Afrique si on doit continuer seulement à ne payer que les salaires et assurer le fonctionnement. On ne peut relever l'Afrique que si au moins on consacre 30% des budgets aux investissements. Et consacrer 30% des budgets aux investissements, c'est choisir des filières qui doivent avoir des effets multiplicateurs et des effets d'entraînement sur d'autres.
Je vous remercie.
Merci.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal. La mise en onde a été assurée par Alain Goy. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Pierrot et Lamézi et la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci aussi à vous pour votre particulière attention.